d'informations générales, particulières, parfois qui ouvraient des fresques très considérables, très grandes, d'autres fois des analyses très fines ponctuellement. Et nous nous étions proposés d'avoir un premier exposé, celui de M. Léon tout à l'heure, et un débat y corollaire après le contrepoint de M. Mechonnik. Nous n'avons pas eu suffisamment de temps et nous avons donc cumulé les deux débats, c'est-à-dire le débat de la conférence de cet après-midi, des deux conférences de cet après-midi, et celui de l'ensemble du séminaire. Alors, il est bien évident que tout le monde n'a pas assisté à tout, et peut-être que ceux-là même qui auraient assisté à la plus grande partie n'ont pas encore en mémoire les détails, n'ont pas en mémoire, disons, le détail de toutes les analyses. Et deux méthodes possibles se présentaient à moi, soit d'ouvrir et d'essayer de diriger un débat analytique, soit, au contraire, de vous proposer quelques grandes directions synthétiques qui pourraient peut-être nous aider à décanter un peu l'ensemble très considérable de toutes ces informations. Je crois que, simultanément, il se passe deux choses différentes, mais toutes les deux importantes. D'abord, une rencontre entre nous, qui nous voyons tous ensemble très peu souvent. Je crois que ces rencontres sont très importantes et fructueuses et enrichissantes. Mais il risque d'y avoir entre nous un débat, je n'ose pas dire d'érudit, mais enfin disons de vocation différente mais très souvent convergente par rapport à l'essentiel des thèmes qui sont abordés. Mais d'autre part, il y a aussi un débat nécessaire des questions que vous poserez à ceux qui se trouvent au podium. Ce sont malgré tout deux registres différents. Essayons quand même de vous donner le privilège et nous allons essayer de répondre plus à vos questions qu'aux nôtres entre nous qui sont extrêmement nombreuses. Vous avez dû remarquer déjà que, ne serait-ce qu'à travers la convergence de ces deux exposés, celui de M. Guyot et celui de M. Mechonnik, énormément de réactions du point de vue de la tradition juive elle-même devaient être mises en évidence. On n'aura ni le temps, ni l'appareillage de vocabulaire, d'élucidation, de dictionnaire et de grammaire de tout cela, de le faire exhaustivement, bien entendu. Alors essayons d'être un peu sobres, et si j'osais de le formuler en hébreu, ce ne serait pas sabre maranan, mais sobre maranan. Et d'être un peu plus, peut-être plus synthétique qu'analytique. Je voulais, pour introduire cela, et je n'essaierai pas de vous rappeler tout ce qui s'est passé toute la semaine, nous serions encore là une semaine, mais de proposer deux remarques. Et est apparu le principe d'élucidation de ce qu'on pourrait appeler la relation ou la corrélation entre la tradition hébraïque et le judaïsme. Simplement un petit point de vocabulaire historique, il y a eu le temps des Hébreux, et ensuite le temps des Juifs. Et ce sont deux époques très différentes de l'histoire de ce même Israël. Et essayons, si vous voulez, d'employer les termes de façon appropriée. Au temps des Hébreux, parler des Hébreux, au temps des Juifs, parler des Juifs. Il y a une différence entre l'hébraïsme et le judaïsme, c'est que c'est la même tradition, mais au temps de l'hébraïsme, il y avait l'expérience prophétique, alors qu'au temps du judaïsme, il y a la fidélité à travers la tradition de ce qu'a été l'expérience prophétique à proprement parler des Hébreux. Ceci dit, les circonstances ont fait, je crois que ce n'est pas par hasard, que la relation privilégiée entre l'hébraïsme et le paganisme a été focalisée par rapport à l'Égypte, disons au paganisme égyptien. Mais en réalité, il faut se souvenir que nous avons traversé quatre relations ou corrélations de ce type. La Chaldée, comment dire simultanément la Syrie, Babel, mais c'est le temps d'où sort Abraham. Ensuite, l'Égypte, qui est très corollaire et très reliée dans la mémoire hébraïque. Ensuite, la Perse. Ensuite, la Grèce. Ensuite, Rome. Chacune de ces cultures, disons, avait sa propre expression de l'expérience religieuse païenne. Et ce n'est peut-être pas par hasard que l'Égypte se trouvait privilégiée dans notre rapport au monde extérieur, parce que c'est dans ce temps-là, entre, si vous voulez, Joseph qui descend en Égypte et Moïse qui sort d'Égypte, que va se constituer l'événement fondateur de la nation hébraïque en tant que nation. Ça ne signifie pas qu'il faudrait laisser de côté, bien que ce ne soit pas le sujet très précis de notre séminaire tel qu'il s'est organisé finalement, les autres relations aux autres formulations de l'expérience religieuse païenne, c'est-à-dire celle de la Chaldée, celle de la Perse, celle de la Grèce, celle de Rome, avec un cas particulier en ce qui concerne Rome, puisque nous étions deux personnages en confrontation, le juif héritier de l'hébreu et d'autre part le chrétien. Et là aussi, énormément de de confusion de vocabulaire risquerait de s'introduire subrepticement. Donc revenons, si vous voulez, à ce premier point. Je crois qu'il faut bien mettre en évidence que dans cette relation entre l'hébreu et l'égyptien, sur ce premier point, historiquement, on a indiqué un problème de reconnaissance de paternité, d'ingratitude, de décrochement. C'était pas le même vocabulaire, mais c'est ainsi que les idées me reviennent. Je crois qu'il faut mettre en évidence ceci. C'est que nous ne trouvons pas, dans l'interpellation biblique face à ce qu'a pu être le paganisme égyptien, une interpellation d'abord théologique, sauf sur un point précis, lorsqu'à un certain moment la divinisation d'autre que le Dieu un porte sur l'homme. Lorsque l'homme de l'Égypte se divinise, et effectivement en gros plan le pharaon dont parle la Bible, alors c'est là qu'il y a rupture. Comme si d'une certaine manière, et c'est le temps de Joseph, on va acquiescer à ce que l'homme de l'Égypte, ou les manières d'être homme de l'Égypte, si elles étaient mythiques, et leur propre relation à ce Dieu un et à leur propre expérience religieuse dans leur propre formulation, mais que le moment critique de la rupture arrivera lorsque c'est l'homme qui se divinise, et peut-être qu'il y a quelque chose de très analogue dans les quatre autres périodes, au temps de la Chaldée, dans la mémoire hébraïque, l'antagoniste d'Abraham étant, non pas le, étant Nimrod, ensuite au temps de la Perse, au temps de la Grèce, au temps de Rome, chaque spécialiste de chacune de ces époques spécialisées vont dire abondamment comment ont été les réalités historiques auxquelles je fais allusion du point de vue très récapitulé de la mémoire traditionnelle hébraïque. Alors, retenons cela, il y a une filiation très familière, très positive, au service de, au moment, Joseph. Et c'est au moment Moïse qu'il y a décrochement. Et donc, le problème d'une reconnaissance, gratitude, ingratitude, et on pourrait dire d'autres manières, vous y reviendrez, devrait être posé à mon sens à travers cet éclairage. Que s'est-il passé au moment précis où l'être hébreu, qui avec Joseph se considère au service de la civilisation du temps, ce temps-là elle était égyptienne, décide de décrocher avec Moïse? Peut-être qu'il y a sur tout ce point-là le moment du paganisme qui, suivant le diagnostic hébraïque, apparaît comme néfaste et dévastateur, de la divinisation de l'homme et de ce qu'elle impliquerait cette fois sur la séparation des deux visions de l'éthique corollaire à ces deux expériences religieuses, l'hébraïque et la païenne. Un deuxième point que je vous indiquerai comme une direction de synthèse qui prend un peu plus, se met un peu plus en relation avec l'exposé de M. Meychonik, c'est la différence entre d'accent mis entre la perception monothéiste et la perception polythéiste de la sensibilité religieuse corollaire de chacune de ces époques. Il me semble que les païens ont mis plus l'accent sur le dévoilement de la multiplicité et ont caché l'unité, alors que l'hébreu radicalement et à chacune de ses époques va mettre radicalement l'accent sur le dévoilement de l'unité et cacher la multiplicité. Peut-être qu'il y aurait là un certain nombre de questions assez fécondes sur dans le souci de quoi, en vue de quoi, pourquoi, et en relation en particulier, je crois, au souci des implications éthiques. Avec cependant, me semble-t-il, une différence radicale entre la perception que l'hébreu a eue de l'intimité plurale des différentes nominations possibles du Dieu un et la sensibilité qu'en a eue le païen. C'est que le païen a peut-être eu tendance à non seulement isoler, mais à personnaliser chacun de ses noms. Ces noms, chacun de ses noms étaient des noms de personnes du point de vue de l'hébreu, et c'est cela qui a été refusé. Ce qu'on pourrait, je n'emploierai pas le mot de hypostase, qui est un mot d'un autre vocabulaire, bien qu'il fasse allusion, sauf, en fin de compte, à des réalités assez analogues, mais c'est un mot d'un autre vocabulaire, il y a quelque chose de cet ordre. C'est que la sensibilité de l'hébreu, connaissant l'intimité très familièrement de la relation très multiple de l'un avec la multiplicité du monde, des situations du monde, et pas seulement des objets du monde, à refuser, c'est la personnalisation de ces hypostases. Et chose que peut-être, chose à quoi peut-être condescendait beaucoup plus volontiers le païen, et encore une fois, quelle était l'implication du point de vue des causes de la rupture au niveau de la conception de l'éthique. Cela peut-être nous permettrait de jeter un peu plus un éclairage sur ce que M. Meichenich a dénommé tout à l'heure comme étant une sorte de tentation du paganisme qui reviendrait du côté de la multiplicité des noms de Dieu, par exemple dans la Kabbale, et de toute une série de rituels y afférents qui ont été cités en passant. Voici les deux remarques que je voulais vous proposer pour essayer de cadrer un peu notre échange, notre double échange, mais vous avez le privilège. J'ai encore une fois essayé de les synthétiser, de telle sorte d'économiser le temps de l'analyse. Chaque point devra être repris du point de vue de l'érudition positive et circonstanciée de chacun des spécialistes qui s'occupent de ces disciplines. Vous avez la parole. Si vous voulez commencer par là. D'abord, la table. Je pense que je vais rappeler vos questions très rapidement depuis le temps de... Ou l'inverse, comme vous voudrez. Finalement, nous sommes entre nous, il n'y a pas de protocole. Si vous voulez que nous donnions d'abord la parole à la salle. Très bien, alors vous avez d'abord la parole. Oui, je vous écoute.
Sans prendre position, un des conférenciers a cité éventuellement dans les cinq livres de Moïse, il y a plusieurs points qui seraient l'inspiration de la culture et de la cosmogonie égyptienne. Je me pose la question, comment se fait-il, le livre important, le livre des morts chez les Égyptiens, vous indique différentes formes, différentes expressions pour l'âme après la survivance, après la mort, et à ma connaissance, dans les cinq livres de Moïse, ce qui est en chef des Égyptiens, un point fondamental et important, et à ma connaissance, dans les cinq livres de Moïse, il n'est absolument pas question, directement dans les cinq livres de Moïse, de la survivance de l'âme en tant que telle, et dans la mesure où on pourrait comprendre certaines formes de survivance, c'est à ma connaissance et sauf erreur de ma part, tout à fait loin du culte de la survivance de l'âme et des différentes expressions et enracinements fondamentaux dans la mythologie égyptienne de la survivance de l'âme.
Et comment voulez-vous que nous procédions? Que nous groupions un certain nombre de questions qui s'adressent à chaque conférencier ou qu'on y réponde ponctuellement?
Je crois que ce serait préférable.
Oui, mais il est coupé. Bien. Il me semble que... Oui, avant cela, simplement pour préciser que cette question devrait s'adresser simultanément à M. Meichenich et en particulier à moi-même, si vous voulez, mais vous la prendrez pour vous.
Non, je préférerais que vous répondiez.
Bon, en tout cas, je répondrai du côté hébreu. Je vous écoute.
Le premier conférencier nous avait parlé de la colonie militaire d'Éléphantine. Je pense, si j'ai bien compris, en corrélation avec Alexandrie, où deux tiers de la population était grecque.
Elle n'existe pas encore, Alexandrie. Alexandrie n'était pas encore fondée.
Justement, je voulais savoir quel est l'espace de temps qui s'est écoulé entre la colonie juive d'Éléphantine et l'état d'Alexandrie avec deux tiers grecs et un tiers juif. Parce que c'est un point qui n'échappe.
100 ans. En gros, un siècle.
Merci.
Bien, monsieur.
Oui, votre question. Vous êtes en Égypte, non pas par notre plaisir, en Égypte, mais pas par la famine. Et après que le pharaon était mort, notre peuple est suivi en esclavage. Nous n'étions pas le seul. L'Égypte, c'était comme Rome, comme Hitler ou l'Italie, qui prenait tout le peuple. On s'est révolté. Comme ils n'étaient même pas juifs, si t'es juif, ils seraient allés en Israël. Parce que c'est arrivé à la frontière, ils sont rentrés en Israël. Est-ce qu'il est violé? Parce que le juif n'a pas quelqu'un d'autre.
J'achète. Non, je ne sais pas quoi te répondre, j'ai pas compris la question. Bien, y a-t-il une autre question? Eh bien, si vous voulez, on va peut-être commencer par là. Et en ce qui concerne la première question de M. Kohl, c'est Emmerich. En ce qui concerne la première question.
Oui, bien. La deuxième est résolue.
Oui. Eh bien, je crois qu'effectivement, il y a deux points différents. D'abord, la notion ou la croyance à la survie de l'âme, et d'autre part, le culte rendu aux morts. Alors je crois que pour le deuxième point, la réponse sera très simple. Il y a un rituel de la mort qui est un honneur rendu à celui qui est mort, mais il n'y a aucun culte rendu à l'âme des morts. Dans le judaïsme, je dis bien. Par contre, la notion de la survie de la personne à travers la survie de l'âme, eh bien, elle est, je ne dirais pas, à livre ouvert dans le Pentateuque, dans Torah de Moshe, mais elle y est impliquée comme les postulats du discours. En particulier, cela a été mis en évidence par Rabbi Moshe Chaim Lozato, le Ramchal, dans un des chapitres de son livre Derech Hashem, et qui cite l'expression biblique que je vais vous traduire. L'expression biblique, celui qui meurt va rejoindre ses pères. Il va bien les rejoindre quelque part. Hein? Et est-ce que cela suffit comme
Oui,
Vaya sefer avota. Inecha shochev imavotecha. Et c'est évident que si la Bible dit tu vas rejoindre tes pères, tu vas rejoindre ton peuple là où il se trouve au moment de la mort, cela est dit, ça veut dire qu'il va bien quelque part où il retrouve.
Et pourquoi pas dans ma mémoire?
Ce serait une explication très tardive.
Non,
non, ça ce n'est pas dit dans le livre, dans notre livre. Ce serait la lecture d'un juif, mais de mentalité culturelle très tardive. Je pense personnellement. On va être très gêné. Ou bien on cite des textes, des références, une tradition, on donne des avis personnels. Alors ne confondez pas. Mais je pense personnellement que cela fait partie de tout un mouvement de laïcisation de la tradition hébraïque dans les siècles très récents du judaïsme, encore du judaïsme, je dirais, ayant tendance à s'assimiler. Une tendance, par exemple, à ne plus parler du Messie, mais de l'ère messianique. Une tendance à ne plus parler des réalités auxquelles les Hébreux, puis les Juifs, leurs héritiers, se sont référés comme des réalités. Je reprends la distinction réalisme-nominalisme qui me semble extrêmement féconde dans notre problème et d'y substituer des notions philosophiques, des notions abstraites. Alors, personnellement, ça ne me gêne pas beaucoup qu'on croit aussi à cela et qu'il y ait des conduites de survie dans la mémoire des descendants, c'est aussi. Mais la croyance hébraïque de base n'est pas du tout cela. Elle est bien évidemment la croyance dans la survie de l'âme du défunt, pour parler comme les Égyptiens en français, si j'ose dire. Mais je voudrais ajouter ceci, c'est que il y a énormément de postulats non dits du discours biblique. C'est pas, il faudrait nous refamiliariser à cela. La parole de la Bible est d'abord une tradition orale qui, pour des raisons très précises, en particulier historiques et de survie de mémoire, a mis par écrit un discours qui est Torah Shebichtav. Mais ce discours est incompréhensible si on ne remet pas en évidence les attendus de la lecture qui sont les non-dits du texte. Je donne un tout petit exemple en passant. On peut le dire de manière un peu si vous voulez, schématisée. C'est un livre donné aux Hébreux et premièrement, il faut qu'un Hébreu le lise pour que ce texte hébreu prenne un sens hébreu du point de vue d'une lecture traditionnelle de la Bible. Un petit exemple. Les théologiens tardifs ont beaucoup discuté de savoir si la croyance dans l'existence d'un monde à venir, d'un autre monde, si la croyance dans la résurrection des morts, indépendamment de la survie des âmes, qui ne sont pas les mêmes croyances, ont été tardives, empruntées par les juifs tardivement à d'autres cultures, et puis comme ça fait partie d'un courant exégétique qui est assez suspect, parce que finalement on arrive toujours à ces principes assez un peu étonnants dans leur caractère systématique, que les Hébreux n'auraient jamais eu rien d'original, ils auraient tout emprunté à tout le monde, ni même les Juifs tardifs. Et il y a quelque chose de suspect dans la massivité, si vous voulez, de ce système d'explication. Mais pour revenir à ce problème, nous avons par exemple dans le Talmud énormément d'exégèses midrashiques qui mettent en évidence que certains versets seraient incompréhensibles dans leur littéralité s'il n'avait pas pour préalable, dans le contexte non dit, dans le blanc de l'écrit en noir, si j'ose dire, l'évidence de ce principe que, pour l'hébreu, ce monde-ci mène au monde à venir, par exemple. J'essaierai de l'expliquer très brièvement par un raisonnement très succinct. Tout se passe comme si le postulat était que le discours de la Torah de Moïse ne s'adresse qu'à celui qui sait que ce monde-ci n'est pas le monde définitif, qui est en chemin vers ce que nous appelons le Olamaba, le monde à venir, et il s'adresse à lui pour lui donner un viatique, un code de la route, et qu'il n'a rien à dire à celui qui n'a pas ce préalable de croyance hébraïque. C'est-à-dire que ce serait suspect que la Bible vienne d'abord nous enseigner qu'il y a un monde à venir. Ça veut dire qu'elle ne s'adresserait pas à nous les Hébreux. Et ce serait un catéchisme. Ce ne serait pas la charte de la mémoire hébraïque. C'est-à-dire que tout le postulat non dit du discours fait partie de la tradition orale. Et l'objet des Midrashim que je vous cite, en particulier dans le 11e chapitre de la Gemara de Sanhedrin, n'est pas d'inventer une exégèse nouvelle pour y démontrer l'existence de la croyance dans la survie de l'âme ou dans le monde à venir ou dans la résurrection des morts, mais de remettre en évidence les postulats du lecteur hébraïque de cette lecture hébraïque. Parce que, avec le temps, nous nous éloignons de nos sources, reliées aux mentalités étrangères, des controverses risquent de s'introduire. Il faut restituer cette évidence que c'est un préalable de la tradition orale par rapport à la tradition écrite et non pas l'inverse. Je profitais de ta question pour donner cet exemple, mais je crois que nous devons au Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, d'avoir mis cela en évidence au niveau d'une exégèse peu connue, mais extrêmement importante. On ne comprendrait pas cette expression de l'hébreu biblique, tu vas rejoindre tes pères s'il n'y avait pas survie de l'âme.
Je demande la parole pour une question.
Attendez, on n'a pas fini d'abord.
Ma question n'a rien à faire avec Rouk ni autre, plutôt avec Tiamat. Je demande de bien vouloir, au nom de l'écologie, d'hygiène et de respect de son prochain, de ne pas fumer. Et je demande à un de nos maîtres de la table de donner l'exemple.
Très bien. Alors, en ce qui concerne la deuxième question, je crois qu'il faut reprendre le récit de l'histoire des Hébreux en Égypte beaucoup plus en détail. Qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes descendus en Égypte à cause de famine? Il y a différentes couches de sens. Il y a différents messages dans les formules qui nous renvoient au récit des événements tels qu'ils sont récapitulés dans le récit biblique. Comment est apparu cet esclavage? Il faut par exemple découvrir que les Hébreux dans le premier stade, le stade Joseph, que j'avais dénommé, était dans l'enthousiasme au service de cette civilisation extérieure, de ce temps, et qu'il est arrivé ensuite un revirement. Tout ceci nous est raconté très en détail, dans le détail du texte biblique. Je vous donne un petit exemple, que les choses ne sont pas si simples que l'on croit, lorsqu'on ne retient que des formulations trop schématisées, ou peut-être trop d'estampilles catéchistiques, si j'ose dire. Voilà, lorsque Joseph, dans un moment du récit, renvoie ses frères avec des caravanes chargées de blé, puisqu'il était l'intendant de l'Égypte, les renvoie au pays de Canaan, chargés de cadeaux, parce qu'il a deviné que c'était des Hébreux qui venaient de chez son père Jacob. Alors, Jacob diagnostique ce cadeau, et puis il envoie comme cadeau réciproque, la deuxième fois que les fils de Jacob redescendront en Égypte pour de nouveau acheter du blé, des denrées de luxe, en particulier des pistaches, botnim. Et alors, s'il y avait la famine au pays de Canaan, on se permet d'envoyer des pistaches à l'Égyptien. C'est pas si simple que ça, tout cela. Et ce qui se passe, c'est une sorte d'événement qui nous est raconté sous forme très condensée, très énergique d'ailleurs dans le récit. Et c'est vrai de tous les textes traditionnels anciens qui racontent des événements historiques importants, des événements historiques fondateurs, et qui font allusion simultanément à différents registres. Il y avait famine. Mais famine de quoi? Pas seulement famine de blé, puisqu'on peut envoyer des pistaches. Il n'y a pas que des pistaches dans ce corbeille de cadeaux, par exemple. Et donc, la question que vous posez, et qui, je suis en train d'être Moïse, sioniste ou pas, nous demanderait des heures d'élucidation préalable, je vais essayer de schématiser très rapidement. Ce que nous enseigne la tradition à ce sujet à propos de deux expressions employées par le récit de la sortie d'Égypte. L'expression « El Hébrav » et l'expression « Asafsouf ». C'est qu'en même temps que les Hébreux, beaucoup d'hommes ont profité de cette porte ouverte par les Hébreux au moment de leur propre délivrance pour se joindre au peuple hébreu et sortir avec eux de l'Égypte et dans les 40 ans du désert, se fondre avec eux dans une espèce de creuset de cette génération du désert pour en faire l'Israël historique qui suit. Et cette comment dire, résistance à la relation à Eretz Israël ne venait évidemment pas des Hébreux dont c'était la terre ancestrale, mais peut-être, enfin peut-être, le commentaire dit sûrement, de tous ces hommes qui n'étaient pas originaires de la famille des Hébreux du pays de Canaan, qui avaient accepté la loi de Moïse, mais qui mettront des siècles, des millénaires pour se réidentifier nationalement jusqu'à la relation à la terre. Et le Midrash dit très clairement que Moïse, en étant responsable, devant s'en sentir responsable, que Moïse ne rejoindrait Eretz Israël que quand il aurait la force de les ramener, eux, pas les Hébreux, le Erevav, à sa source qui était sorti. Vous savez que ça fait partie d'une de nos liturgies de Pessah, lorsque, par exemple, derrière la formule de l'invocation à la Veda de Pessah, quand nous disons « Kol Districh Yetev Yifsah », que tout celui qui est dans ce besoin-là vienne faire la Pâque avec nous. Et alors, tout se passe comme si dans ce peuple sorti d'Égypte, il y a deux parties. Les descendants des Hébreux, qui retournent sur leur terre avec la loi de Moïse. Et ceux qui n'étaient pas les descendants des Hébreux, qui vont au désert avec la loi de Moïse, et qui empêchent Moïse de rentrer en Eretz Israël. Bon, enfin, vous avez compris, grosso modo, le problème. On va vous rendre la parole si vous avez d'autres questions.
J'aimerais faire une remarque au sujet de l'esclavage.
Vous voulez peut-être prendre le micro, ça sera bien.
J'aimerais faire, si vous permettez, une remarque au sujet de l'esclavage. On a parlé de l'esclavage juif en Égypte, mais le premier esclavage qui nous est cité dans la Bible, c'est l'esclavage de l'égyptienne Agar dans la maison d'Abraham, qui est nettement antérieur à l'esclave hébreu de l'hébreu en Égypte. Ce qui nous permettrait de comprendre un certain rituel, celui de la circoncision par exemple, qui est très clair quand la Bible nous parle par exemple de la circoncision d'Ismaël.
Et si j'ai bien compris votre question, ça voudrait dire qu'un certain nombre de comportements culturels et religieux et rituels se trouvent déjà chez les Hébreux avant la descente en Égypte.
Exactement.
Bien, à qui appartient cette question? Vous allez le décider. Y a-t-il d'autres questions?
Poser le problème des sacrifices humains. On a souvent dit que les sacrifices humains existaient dans les sociétés païennes. Il est attesté qu'au Mexique, par exemple, il y avait effectivement des sacrifices humains. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y avait des sacrifices humains dans les sociétés proches d'Israël, et en particulier dans la société égyptienne, où les époques sont restées captives, 400 ans? C'est-à-dire que maintenant que ce problème n'ait pas été soulevé dans les différents
débats.
Monsieur,
vous êtes trop modeste.
Comment?
J'ai presque envie de répondre à votre place. Vous êtes probablement adapté votre modestie, monsieur. Il y a décrit un grand devoir sur le problème du sacrifice humain en Égypte. Alors, je vous donnerai la référence tout à l'heure et vous verrez que la réponse est apportée à l'avance.
Non, mais je ne pouvais pas tout évoquer, même des données principales. Alors, je vais profiter, puisque j'ai la parole, de faire d'abord une mise au point concernant un ouvrage qu'on a beaucoup cité, le Livre des Morts, comme étant le principal livre des Égyptiens. Il y a là une illusion d'optique qui nous vient finalement de ce que nous sommes des gens du livre. Le Livre des Morts, ce sont des recueils, à l'origine différents, ils ont été canonisés que plus tard, que l'on plaçait auprès des morts dans leur tombeau. C'était, disons, des viatiques pour assurer, par différents moyens qui nous paraissent contradictoires, la survie corporelle et spirituelle de l'individu. Il s'y trouve incorporés des morceaux de théologie. Il s'y trouve des traités concernant l'usage des amulettes. Mais en tout cas, l'habitude que l'on a prise, parce que c'est le document égyptien qui a été le plus tôt connu et dans le plus grand nombre d'exemplaires, de le citer, alors que seuls certains chapitres sont réellement pertinents, crée une illusion d'optique catastrophique. Nous possédons sur les murs des temples, sur les papyrus, des hymnes, des sagesses, des traités rituels qui nous donnent une image beaucoup plus authentique que celle que nous nous formons du Livre des Morts. Parce que, ça c'est très clair, donc, Égypte, on pense aussitôt tombeau. Mais nous connaissons bien les tombeaux des Égyptiens, ils les faisaient en dur, du moins pour les gens qui en avaient le moyen. Voilà, ils ont subsisté, alors que ce qui était dans la vallée a été détruit, soit par les éléments, soit par les hommes. Mais si on se reporte aux documents de la vie quotidienne, la préoccupation de la survie n'était pas plus intense chez les Égyptiens que chez les autres. Et dans cette perspective-là, que l'on ne puisse pas trouver, disons, des indices concernant le culte funéraire. Et par culte funéraire, ce n'est pas tellement un culte dû de l'homme mort qu'un culte rendu à l'appareil divin pour permettre la survie, qu'on ne trouve pas une moindre trace comme influence possible de l'Égypte dans les livres mosaïques, ce n'est absolument pas étonnant. Pratiquement, je ne me suis pas référé au livre des morts, je me suis référé à des éléments tout à fait différents. Et là, ça, c'est un malentendu qu'il faut expurger. Oui, il y a les hymnes au soleil, il y a les gloses concernant le Dieu créateur, mais dans le livre des morts, ce n'est pas sur ces documents-là que se construit notre connaissance, ni de la religion égyptienne, ni de l'expérience spirituelle des Égyptiens. Il y a des stèles, disons, de dévotion personnelle, les gens remercient Dieu à la suite d'une guérison ou quelque chose, qui rendent un ton tellement moderne, parfois d'ailleurs tellement hébraïque, que les figures dans toutes les anthologies, et ce sur quoi j'ai insisté, et j'insisterai encore, c'est que ces textes étaient compatibles avec tout ce qui nous paraît du paganisme. Alors, pour la question de l'esclavage, je ferai remarquer une chose, c'est qu'il ne faut pas employer ce mot, disons, inconsidérément. L'esclavage des Hébreux en Égypte, c'est simplement une exploitation de caractère fiscal d'un des groupes humains qui se trouvait sous le territoire de l'administration égyptienne. Bon, nous avons affaire à une réquisition de manœuvre. En revanche, l'esclavage dans la famille d'Abraham, c'est ce qu'on appellerait, ce que les ethnologues appellent l'esclavage de case, c'est-à-dire que c'est une personne qui se trouve rattachée à la famille par un statut particulier. Si on fait rapprocher les deux choses, ce n'est absolument pas pertinent à aucune réflexion. Alors la question du sacrifice humain. Eh bien, la notion de sacrifice humain est une notion qui est, en quelque sorte, celle des gens qui voient d'autres exécuter des individus en leur donnant des formes qui paraissent s'apparenter à celles d'un sacrifice. En fait, les Grecs ont dit que les Égyptiens pratiquaient l'anthropoctonie, l'exécution d'êtres humains. Alors justement, les documents peu nombreux que j'ai réunis, les documents authentiques, nous mettent en présence de cas suivants. Des individus qui sont des criminels d'État sont considérés comme ayant transgressé l'ordre, de même que les premiers rebelles dans l'histoire du monde ont transgressé l'ordre. Ils vont donc être, alors il y a un texte grec qui dit, ils vont être sacrifiés à telle déesse, alors que les sources égyptiennes nous montrent que cette déesse, ils seront brûlés. Cette déesse, c'est l'œil de Ré, c'est la déesse de feu, et en fait, on se réfère simplement au précédent mythique de l'anéantissement des premiers rebelles par la déesse de flamme pour exécuter les gens par le feu. Autrement dit, c'est la peine de mort avec un attendu idéologique. Eh bien, il n'existe pas de peuple, y compris le peuple d'Israël, qui, exécutant la peine de mort, ne l'entoure pas de représentations idéologiques. Autrement dit, dans ce cas-là, le sacrifice humain, c'est en fait l'application ou non de la peine de mort. Et les motivations de représentation religieuse se rattachent évidemment à la culture des gens qui la pratiquent. Et ceci jusque dans les États laïcs modernes. Et ce n'est pas, si vous voulez, ça ne pose pas le problème de l'humanisme. Et je connais même un texte que je n'ai pas encore étudié en détail, dans lequel justement on cherche à dédouaner un roi parce qu'il a dû pratiquer la peine de mort. Parce que les textes sont formels, le plus ancien est une stèle de la première période intermédiaire, soit environ 2700 avant Jésus-Christ, où on dit, parce qu'il y a beaucoup de déclarations, disons, d'innocence des gens, on dit « je n'ai pas tué d'être humain », et il y a cette magnifique expression, n'est-ce pas, c'est dans un conte, où il ne s'agit même pas de mettre à mort, il s'agit d'un roi, qui a rencontré un magicien, c'est un conte populaire, et le magicien est censé savoir remettre en place une tête coupée. Alors le roi, qui est présenté comme un roi pas gentil, c'est Khéops, dit qu'on fasse venir le prisonnier qui est dans la prison. Ça a toujours frappé que ce roi n'ait qu'un seul prisonnier dans sa prison. Et le magicien nous répond non, fais venir un taureau ou une noix, car on n'a pas le droit de toucher au Outneter, au bétail de Dieu. L'homme étant bétail de Dieu, ne pouvant pas, étant la créature par excellence, subir même une expérience de ce genre-là. Alors, sur ce point de vue-là, on ne peut pas parler de sacrifice humain en Égypte. Voilà, et ça, je ne me permettrai pas de comparer à ce qui se passait dans un tout autre contexte culturel dans le Mexique et le Colombien. En Égypte, la notion de sacrifice humain ne peut pas être, connotée d'une notation éthique défavorable. C'est la peine de mort appliquée dans un contexte de représentation religieuse particulier et parfaitement cohérent au demeurant.
D'abord,
Non, mais il y a peut-être d'autres questions encore dans le public. Voilà.
Je vous conteste aussi. À l'instant même, en Égypte, il existe 2 millions d'esclaves qui sont traités comme 5 millions d'esclaves.
Une question de vocabulaire. Il ne faut pas abuser de certains termes. Ils ne sont pas innocents. Il y a esclaves et esclaves.
Ils sont encore plus gros d'aujourd'hui.
Non, mais.
Pour votre temps. Mais. Esclaves, 2 millions d'esclaves.
Mais quel est le statut de ces esclaves?
Ils travaillent, mangent, ils dorment, comme c'est avant, le temps des pharaons, des ventes de maison, ils travaillent.
Non, mais ne parlez pas du temps des pharaons.
Non, mais je parle de leur statut et leur situation de vie n'a rien changé de plus. Oui. Ils trouvent le moulin à l'eau pour le propriétaire et pour le travail.
Non, écoutez, monsieur l'Égypte, je vous fais. Mais en fait, ces esclaves, qu'est-ce que c'est?
Ce sont des gens qui ne sont ni rémunérés pour leur travail, ils ne sont pas manger, dormir et se reproduire.
Par statut?
Comme statut entre eux.
Parce que des esclaves comme ça, il y en a aussi à Paris. Hein. Il y en a aussi à Paris. Non, ce sont des khadam, des mokadem. Enfin, ils vivent dans une société qui a quand même des statuts. Quel est leur statut? D'abord, mamelouk. Mamelouk, non. Mais non. Non, écoutez, monsieur. Fournissez-nous des renseignements sociologiques et juridiques précis des gens exploités de façon ignoble. Il y en a partout, même sous nos toits. Même sous nos toits. Ça n'est pas particulier à l'Égypte contemporaine. Un peu. Et moi, je vous dirais, je fréquente quand même beaucoup la ville et le village en Égypte. Notamment dans les villages, il y a des gens misérables, il y a des gens exploités, mais on ne peut pas les qualifier d'esclaves. Et alors, si vous dites qu'il y en a, il y en a beaucoup plus de 2 millions. Il y en a beaucoup plus de 2 millions. Mais à ce moment-là, on tombe dans l'abus de terme. Ils ont statut d'esclave.
On s'enlit.
Bien, il y a effectivement là un problème de vocabulaire, mais qui renvoie à deux problèmes différents. Et d'abord, le diagnostic de ce qu'aurait pu être l'esclavage au temps d'Égypte des pharaons. Et si vous voulez, il faut quand même poser la question de se référer à ce qu'est censé dire la Bible dans la tradition de la Bible concernant ce qu'a été le sort des Hébreux et qui a été les causes immédiates de l'initiative de Moïse de mettre fin à cette histoire qui avait commencé au temps de Joseph et où l'Hébreu était au service de la civilisation égyptienne. Et d'autre part, le problème contemporain de l'exploitation de l'homme par l'homme. Peut-être que je voudrais mettre en évidence pour une question un peu généralisée. Le sujet très précis d'ailleurs de notre table ronde maintenant a été formulé de la manière suivante. Y a-t-il eu méconnaissance du paganisme par la tradition hébraïque? Je l'ai entendu en partie de cette manière lorsque j'en ai pris connaissance. Est-ce que la tradition hébraïque a porté sur le paganisme de l'Antiquité? Nous n'avions pas choisi spécialement le paganisme grec, mais disons sur le paganisme de l'Antiquité, un jugement uniquement négatif, le dégradant à une sorte uniquement de volonté de jouissance matérielle, de recherche de la jouissance pour la jouissance, un peu la connotation qu'il a dans le vocabulaire contemporain, un peu d'ailleurs de ce qui est arrivé dans l'histoire de la philosophie, lorsqu'on a imputé à l'épicurisme ce qui était le propre de l'école d'Aristide, la recherche de la jouissance, ou bien n'y aurait-il pas suffisamment d'indices qui nous feraient comprendre que l'hébreu a su diagnostiquer un caractère positif, je veux dire, sans mettre de jugement de valeur, un caractère réel d'expérience religieuse qui a été d'ailleurs le propre de l'humanité tout entière, en dehors de la tradition hébraïque, d'une certaine manière, et que, en dépit de cela, et malgré ce diagnostic positif, qui a été peut-être occulté par le temps culturel qui nous sépare de ce temps-là et de ce diagnostic porté par les prophètes hébreux, a été condamné comme néfaste. J'ai tenté pour ma part dans les exposés précédents, un peu dans la manière dont j'ai essayé d'orienter ce débat tout à l'heure, d'essayer d'indiquer que nous avons suffisamment d'éléments qui nous permettent de diagnostiquer cette reconnaissance dans le sens strict de connaissance de ce qu'il s'agissait là, de l'expérience de l'homme de nature renvoyé, le mot est peut-être péjoratif, mais relié à l'expérience naturelle de la religion naturelle, que le parti pris, l'option religieuse hébraïque a été radicalement autre, et que compte tenu de ce qu'il s'agit de là, de la religion de l'homme de nature, il s'y est opposé donc pour d'autres raisons. Et peut-être que nous aurions intérêt à essayer d'organiser nos questions autour de tels axes de réflexion, c'est-à-dire bien que il y ait une réhabilitation culturelle à faire sur la nature de l'expérience religieuse des païens, la radicale séparation de l'option religieuse hébraïque reste ce qu'elle est, et ceci pose un problème aussi dans le temps contemporain. Voulez-vous peut-être prendre le relais de cette...
Il y a peut-être d'autres questions, hein, monsieur.
Ça rejoint ce que vient de dire.
Je reviens à la question de la cellule, de l'âme. On n'a pas mentionné au moment de l'embarras du chapeau du roi Salut, quand il a voulu questionner, comme d'habitude, le prophète Samuel, il a fallu qu'il passe par l'histoire que vous connaissez. Et donc, on lui a répondu, le Roland Rabador, que le monde parle, n'est que par roi de Chimorel, la première ligne. Demain, tu es avec moi dans ma mérite, c'est ça que vous avez expliqué dans la semaine. Et alors, quand on a aussi, mon cher Abraham Al-Rachalou, il a intercédé pour le peuple d'Israël en disant j'exhorte les Abraham, les Israël et les Jacob. Ça, c'est une preuve aussi nette de la survie de la Neshama, à part tout ce qu'on a expliqué à travers le Talmud, du Maharaj Tablach, du Maharaj Al-Fonia Mechal, du Roland Shkuloto. Alors, nous avons donné pas mal d'exemples de ce gouvernement qui était dans les attitudes de la pratique et qui n'avait pas les Olympiens mêmes ni rien. On a expliqué que c'est les marins de la République, les marins de la pour le monde, le monde chicoloto qui devient l'éternité.
Et oui, nous avons eu là d'autres références sur des indications qui établissent que l'allusion à la survie de l'âme est très abondante dans les textes traditionnels juifs, je vous en remercie. Mais il faut quand même préciser que le judaïsme tout entier sort des formes dévoyées, dégradées, qui prennent des superstitions